Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Jinune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Jinune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Marie-Philippe Van Hems. Bonjour Marie-Philippe,
bonjour,
bienvenue
Virginie.
Sur le Jinune Podcast.
Merci bien.
Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous parler de ton activité, nous dire un peu quel est ton parcours dans les grandes lignes?
Avec grand plaisir. Donc bonjour chers auditeurs, donc, je m'appelle Marie-Philippe Van Hems. Alors contrairement à ce que pourrait dire mon nom, je ne viens pas de Hollande, je viens de la France. Et j'ai travaillé 15 ans dans la transformation des business. Donc j'adore ça. Tout simplement parce qu'on passe d'une entreprise avec son patron et son employé à des entreprises où finalement on donne un sens à ce que fait l'employé et bien entendu ça me donne aussi du profit derrière. Depuis l'année dernière, j'ai fait une transition parce que je travaillais dans les corps et maintenant j'aide vous les leaders responsables à transformer et accélérer votre business. Voilà un peu.
Génial. Et le nom de ton entreprise, on va peut-être le
rappeler. C'est I Love Opex. Vous pouvez le voir sur www.iloveopex.com.
Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'agilité. C'est quoi, d'après toi, être agile? Je sais que c'est ton grand sujet.
Voilà, exactement. Donc je travaille donc, dans la transformation des business. On parle d'excellence opérationnelle. Et à l'intérieur, on a les outils qui s'appellent Lean et Agile. Le mot agile est devenu un très, très, très buzz. On verra tout à l'heure un peu d'où il vient. Mais qu'est-ce que c'est qu'agile? On peut penser à un chat. Tu vois, on a l'expression « le chat agile comme un chat ». Ça veut dire quoi? Finalement, quand le chat a une problématique autour de lui où il doit tout de suite réagir, il est hyper efficace pour réagir à ce qui se passe aux alentours. Et c'est la même chose pour une entreprise. Comment elle peut agir très rapidement, efficacement, en toute fluidité, en toute souplesse, très alerte à ce qui se passe dans son environnement, que ce soit en interne dans l'entreprise ou en externe avec ses clients.
Okay.
Donc c'est comme ça qu'on peut pivoter rapidement. Puis en ce moment, c'est assez utile.
Effectivement. Et avant qu'on rentre un petit peu dans le détail et que tu nous expliques justement d'où ça vient, en quoi ça consiste et comment on peut faire pour implémenter ces méthodes, qu'est-ce qui fait en fait tout bêtement qu'on n'est pas agile aujourd'hui?
Alors, ce que j'ai beaucoup vu, ce qui revient toujours en premier, c'est le manque de com. Et surtout quand on s'agrandit. Tu vois, t'as pas mal de départements qui sont ensemble, et on devient plus gros, plus gros, plus gros, puis finalement, c'est pas ce qui se passe de l'autre côté du mur. Donc, le manque de communication, beaucoup. Aussi, donc, la compréhension des besoins de l'autre, que ça soit à l'intérieur avec les autres collaborateurs ou à l'extérieur vers le client. On suppose beaucoup de choses, mais on valide très peu de choses. Donc, donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Bien sûr, la complexité des flux, parce que tu sais, on rajoute des processus, et puis finalement, ça devient très complexe, et du coup, on est des gros paquebots, on n'est plus agile. Il y a aussi la prioritisation des tâches. Hein. Je sais que même en tant qu'entrepreneur tout seul, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité par rapport à autres pour qu'on soit aussi agile nous-mêmes? Et puis, le manque de compétences, et avec la digitalisation, ça se renforce. Donc là aussi, c'est un gros, gros point. Il y a aussi, alors ça, on l'oublie, mais c'est très, très important, c'est finalement faire des choses qu'on aime. Et quand on est forcé à faire quelque chose qu'on n'aime pas, on n'est pas forcément, on a tendance à repousser, puis c'est pas forcément agile non plus. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est, je disais au début, on veut donner un sens, un purpose aux gens dans leur travail, et ça vient souvent avec l'autonomie. Donc, comment rendre les gens autonomes pour qu'ils soient le plus agiles possible? Et finalement, t'as pas besoin de demander, toi, à ton boss, les signatures, les trucs et tout, il peut prendre la décision. Lui ou elle-même.
Absolument. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans une autre vie d'employé,
Aha.
Je me rappelle encore de toutes ces chaînes de validation qui, pour la plupart, ne font pas vraiment de sens.
Absolument.
On tombe vraiment dans l'absurde et du coup, on tombe dans un manque d'agilité aussi qui est assez flagrant.
Voilà, c'est clair. Totalement.
Alors, comment on fait pour remédier à tout ça? Quelles sont les méthodes que tu peux nous présenter et qui existent pour tacler, entre guillemets, ces problèmes et c'est quoi leur origine, en fait?
Ouais. Avec Taylor, vous avez peut-être tous entendu parler de Taylor et du taylorisme. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il s'est rendu compte, alors ça me fait toujours marrer, c'est il y a les patrons, les employés, puis les patrons faisaient rien que dire aux employés ce qu'il fallait faire. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être analyser un minimum ce qui se passait pour reprendre des actions un peu plus importantes. Mm-hmm. Et la deuxième chose qu'ils se sont aussi rendus compte, c'est qu'il fallait former les gens en avirement. Donc ça paraît, voilà, logique, mais même aujourd'hui, ce genre de choses n'est pas encore fait. Ensuite, je ne vais pas vous faire un historique complet, mais je vais vous donner trois autres dates clés. C'est Toyota, bah, après la Seconde Guerre mondiale. On est au Japon, ils n'ont plus du tout de ressources financières. Mais par contre, ils se rendent compte qu'ils ont les personnes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire mieux avec les personnes qu'on va ? Et c'est là où est apparue toute cette notion d'excellence opérationnelle et comment, justement, en se focalisant sur l'humain, on est tout le temps se focalisant sur l'humain, mais là, très pragmatiquement, comment on pouvait faire ? Et puis, Lean et Agile sont arrivés en même temps. On pense que le mot agile est plus récent parce qu'on parle d'agilité souvent dans le développement des softwares. Mais en fait, il est arrivé à peu près en même temps, donc en 1986, et Lean en 1990. Et les deux ont le même objectif, c'est créer de la valeur pour le client. Et l'un, le Lean, c'est créer de la valeur. Ben, on a déjà un produit existant, donc comment est-ce qu'on peut améliorer notre processus pour donner de la valeur au client ? Malheureusement, à l'époque, valeur était, vu qu'on est des sociétés de consommation, bah, le prix le plus bas. Donc, donc c'est le profit, c'est l'argent. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent en ligne, c'est pour couper les coûts, mais ce n'était pas forcément ça. Et aujourd'hui, ça change énormément. Et l'agilité, c'est comment développer un produit agile. Et là, j'ai l'exemple justement de Honda, où ils avaient donné à l'époque le go à une équipe de jeunes de 29 ans pour rechanger la Civic, tu sais, la voiture Civic de l'époque. Et donc, à l'époque, c'était très à la mode d'avoir des longues voitures très basses. Et ils ont dit, on veut une voiture qui marche pour les jeunes. Et c'est là où, la première fois, on a vu une voiture un peu plus créée en hauteur et petite, plus compacte, un peu comme la Mini Cooper, à ce moment-là, qui arrivait à Londres. Et c'est grâce à cette équipe de jeunes où ils ont laissé l'autonomie complète. Donc, j'insiste encore sur ce point d'autonomie. Ils ont dit, on veut une voiture pour les jeunes, point. Imaginez, tu vois, c'était ça le cahier des charges. Et là, ensemble, ils ont créé. Alors, le mot agile est souvent lié au mot scrum. Scrum en anglais, ouais. Scrum en anglais, ça veut dire la mêlée au rugby. Donc, on n'est plus dans une optique, on a le cahier des charges et après, un département fait le design, ensuite on fait le prototype, ensuite on fait l'industrialisation. Puis à la fin, on a un produit qui ne va pas forcément au client. Là, en parallèle, on fait tout en même temps. Donc en fait, l'agilité, c'est ça, c'est qu'on arrive à produire, à créer un produit. À l'époque, c'était ça, de créer un produit en parallèle tous les départements en même temps.
En coordonnant et en communiquant pour revenir
c'est
à ce que
tu disais
tout à l'heure.
C'est pour ça que tu arrives à faire un essai en rugby quand tous tes joueurs sont bien là où il faut qu'ils
soient
en même
temps.
Ouais. Exactement. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise, ou le Lean, l'agile, c'est la même chose dans toutes les industries, pas que dans la production.
Ok. Par curiosité, vu que tu évoquais le mot Scrum, on entend, enfin, je vois des fois passer sur LinkedIn des offres pour des Scrum Masters.
Ouais,
exact. Qu'est-ce qu'un Scrum Master, alors ?
Alors, un Scrum Master, ça va être justement pour que les équipes soient autonomes, on a besoin aussi d'un coach. Donc, il va être là pour s'assurer que tout le monde puisse se développer en même temps et avoir la même voix en même temps.
D'accord. Voilà. Soit facilitateur d'une certaine façon.
Ouais, c'est exactement. Et c'est l'équivalent aussi d'un Lean coordinateur que tu peux voir. Moi, quand je bossais avant, j'étais excellence opérationnelle coordinateur, etc. C'est la même chose. C'est qu'on est là pour coacher et développer sur les outils. Parce que peut-être tu n'as pas tout le temps les outils. Puis il faut savoir, point important, en Lean et Agile, il y a plus de 700 outils. Donc, tu ne les connais pas forcément. Puis, d'un seul coup, tu as une problématique. Tu dis, ah bah, tiens, là, vous pourriez peut-être utiliser ça à votre sauce. Et comme ça,
Donc, toi, tu es là aussi pour dézoomer et puis voir le big picture et les aider à avancer. OK, parenthèse refermée.
Merci. Avec plaisir.
Alors, concrètement, comment ça marche, cette méthode agile ?
Alors, la méthode agile, je vais vous la faire vivre à travers une boîte qui s'appelle SAB. Alors, elle n'a pas l'air très sexy comme ça. Moi, c'est mon grand-père qui conduisait une SAB. Ouais. C'est la seule.
C'est des cibles différentes.
Mais j'ai appris récemment que SAB faisait aussi des avions de chasse. C'est un peu plus sexy.
C'est plus sexy, ouais. C'est plus vendeur.
Donc, en fait, c'est pour vous montrer aussi que ça peut être utilisé pour tout. Et quelque chose qui était initialement utilisé pour les softwares, c'est-à-dire qu'on voulait développer des softwares pour les gens. Sachant qu'il y avait 64% uniquement des fonctionnalités que les gens n'utilisaient pas dans les softwares. Donc ils se sont dit, on a un peu faux, quoi. Comment ça se fait qu'on fait des choses que finalement on n'utilise pas à la fin ? Donc là, l'objectif était tout autre. Bon, c'est vrai, je reviens sur le coût, mais là, le coût d'un avion de chasse en 2016, il était entre 148 et 337 millions de dollars. Donc c'est énorme. Puis voilà la variabilité, c'est du simple au double, quoi, même plus. Avec cette méthode, ils sont arrivés en 2017 à lancer un avion de chasse qui a coûté 69 millions de dollars. Je sais que tout et tout, vous allez vous souvenir de ce chiffre magique. Donc voilà, l'amélioration est même plus de la moitié, donc c'est excellent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors la première chose, ils étaient 1000 ingénieurs. Donc imaginez coordonner 1000 ingénieurs, c'est pas notre équipe de rugby de tout à l'heure. Donc même si au rugby, c'est quand même assez difficile. Et le point, c'est de les aligner, de dire voilà, où est-ce qu'on va et pourquoi on le fait. Et ensuite, ils ont été divisés en 100 équipes. Et ces équipes étaient complètement autonomes pour faire une certaine fonctionnalité de l'avion. Le seul point qui était commun, c'est, j'irais, le rythme. C'est-à-dire qu'il y avait une cadence, et cette cadence, elle est liée, c'est 4 fois 3 semaines. Donc toutes les 3 semaines, ils devraient délivrer quelque chose de particulier qu'ils choisissaient. Par contre, après 12 semaines, là, ils devaient le tester en live sur le test live de l'avion. Donc, ils avaient toujours cette même cadence quand même pour avancer. Et toutes les 3 semaines, donc, ils avaient ce meeting avec, justement, quand tu parles de Scrum Master, bah, il est là. Tu as ce qu'on appelle le représentant des clients aussi qui est là pour dire où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'on peut tester quelque chose, qu'est-ce qu'on teste, et si ça marche ou pas, et puis remonter les informations. L'équipe en elle-même, tous les jours, se rencontre. 10 minutes, dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas ?» Priorité, tac. C'est là où Trello, tu vois, les choses comme Trello, le Kanban, tout ça est arrivé. Mais complètement autonome encore.
D'accord.
Et donc, de prendre à chaque fois la force de chacun dans ce qu'ils veulent faire. Et c'est eux qui choisissent quelles activités ils veulent faire. C'est pas te dire « Non, toi, Virginie, tu vas faire ça. » Non, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Okay. Donc, autonomie complète. Donc, il y a cette routine de communication, puis bien entendu, la stratégie. Et aussi, bah, d'un seul coup, on va voir des améliorations. On va dire, ah ben bah, tiens, là, on a un gros problème. Est-ce qu'on peut pas nous aider pour faire une amélioration? Donc là, il y a peut-être une autre petite équipe qui va arriver et qui va spécifiquement se focaliser sur un problématique.
Donc c'est aussi beaucoup d'itérations, j'imagine.
Ouais. Mm. Bah, dans ce cas-là, oui. Mais,
Mais parce que c'est énorme. On teste and learn et puis après, on avance en fonction de ça.
Exactement. Mm. Exactement. Donc voilà un peu la méthode. Donc ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est l'alignement, la clarté dans ce dans où on va et la communication au sein de l'équipe, qu'elle soit très pragmatique. Alors moi, je pensais, j'ai toujours fait des entreprises assez grandes et énormes, et je pensais que c'était lié au nombre de personnes. Mais en fait, là, je le vois avec mes startups, même 7 personnes, on voit la problématique déjà arriver et on doit déjà mettre ça en place.
Est-ce que tu veux partager des exemples de startups ou tu peux pas trop parce que c'est des clients?
Alors, je peux pas partager les noms, mais je peux partager peut-être, après ce qu'on a fait. C'est que, donc il y a une startup notamment qui commençait très rapidement à grandir. Et puis c'est à ce moment-là où en fait on sait que le CEO, il est super bon parce qu'il a une super bonne idée, il démarche en fait les clients, etc. Parce qu'il a du revenu qui doit rentrer. D'un seul coup, il doit s'agrandir, d'un seul coup, son équipe devient 7 personnes et il s'est rendu compte, ah non, mais là, je ne sais pas quel rôle doit avoir chacun, finalement, en dehors de la fonction, comment est-ce qu'on doit marcher au jour le jour. Et quand on a fait le workshop, j'ai fait un workshop de 2 jours où la première partie, c'était vraiment de comprendre les motivations de chacun, les visions de chacun et les compétences de chacun. Et ils se sont tous super découverts, en fait, pendant cette session. Et la deuxième partie, donc c'était d'affiner les rôles. Et la deuxième partie, on a fait la stratégie. Et là, on s'est rendu compte que personne n'avait la même information, même asset. Et du coup, on a développé la stratégie dans ce cas-là à 1 an. Il faut savoir que pour les grandes entreprises qui sont assez matures en excellence opérationnelle, tu fais jusqu'à 15 ans. Donc tu vois, tu as un autre type de vision. Mais là, tu fais déjà 1 an où est-ce qu'on va être pragmatiquement. Et de là, on dit qui fait quoi. C'est qui prend en main les grandes lignes des projets. Et on délègue pas mal tout sur les épaules du CEO. Il dit, tu lui fais confiance, il a ce projet, point. Et il y va, quoi. Donc ça a énormément déchargé sa fonction. Mmh.
J'imagine qu'il y a des personnalités qui se prêtent plus ou moins bien à ça, non? La capacité à déléguer.
Les femmes. Non, elle était facile. Mais non, c'est vrai que... en plus, il faut le comprendre, quand on lance sa propre boîte, c'est son bébé et tout, puis on a tendance à faire du micromanagement, quoi. Mmh. Donc d'avoir ce lâcher-prise est hyper important. Et il faut savoir comment le faire.
Mmh, comment l'amener. Et alors justement, si une genuine te disait, ça a l'air hyper sympa, l'agilité, les méthodes agiles, mais concrètement, comment moi, en tant qu'entrepreneuse, je mets ça en place, ça se passe comment?
Alors je te dis, c'est super facile.
Évidemment.
Non, alors, si, tout à fait. Donc, la première chose, mais même je l'ai vu, si vous êtes genuine et que vous nous écoutez, vous pouvez aller déjà voir les workshops qu'on a déjà fait à ce sujet. Mais le premier, c'est clair, c'est que tu aies une vision claire. Donc, un, ta vision et un, tes valeurs. Les choses, quelle va être la culture de ta boîte finalement. Et quand tu commences à embaucher, ça je l'ai fait beaucoup aussi avec mes startups, on a mis clairement dans l'annonce la culture de l'entreprise. C'est-à-dire c'est différent d'être une petite entreprise familiale qui adore le high-tech à une autre qui est beaucoup plus vegan, friendly. Enfin, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte et toute cette ambiance. Et du coup, ça t'aide aussi beaucoup pour le recrutement, pour te faire développer. Pardon. Ensuite, donc, vous allez me dire, ça c'est très subjectif, mais non, c'est quand même très pragmatique, ces règles de vie. Et on le fait le lien aussi avec ton biz dev. C'est ça, on a un outil qui s'appelle le Shinkanri, qui est aussi dans un des workshops, où tu regardes ton plan à un an et tu mets des indicateurs derrière qui reflètent ce plan. Et là, je ne veux pas entendre que c'est le revenu. Le revenu est toujours une conséquence. Bien sûr qu'il y a le revenu, bien sûr qu'il faut arriver à vivre et bien sûr qu'il faut qu'on arrive à un minimum. Mais si on se penche sur les autres indicateurs qui sont liés plus à toi, ce que tu vas atteindre et tes clients, comment est-ce que tu peux voir que ton client est content? Comment est-ce que tu peux voir que tu avances bien dans ton projet? C'est là où ça va tirer vers le haut. Okay. Et donc, on arrive avec ce plan un an, et après, on le divise par trimestre, et après, par mois, et après, par semaine. Alors moi, bizarrement, je fais beaucoup d'excellence opérationnelle, mais je déteste la structure. Donc, j'ai dû trouver ma liberté dans cette structure. Donc, par exemple, ce que je fais, c'est tous les dimanches, je regarde mon plan de la semaine, je sais ce que je dois atteindre dans mes 3 prochains mois, et je regarde donc aussi par semaine ce que je dois, dans les différents sujets, atteindre. Et là, j'ai beaucoup de flexibilité dans la semaine pour dire quand est-ce que je fais quoi. Okay, mais ça, c'est quand tu es tout seul. Après, quand tu es à plusieurs, là, par contre, tu fais l'exercice avec tous les membres de ton équipe. Et là, tu clarifies bien qui fait quoi, non, déjà pour les gros projets dans les membres de ton équipe. Ensuite, ça, donc, c'est le premier. Donc, c'est le premier volet qui, je veux dire, c'est le côté très stratégique. J'en donne d'ailleurs un exemple, toi qui aimes bien les exemples. Là, celui-ci, je peux le donner, c'est... J'ai une start-up qui est en Côte d'Ivoire. C'est 2 frères. Et ils ont exactement leur motivation intrinsèque sont très différentes. Okay. Et par contre, ils ont cette même vision à aider les agriculteurs, finalement. Ils veulent faire plus avec le moins. Je vais dire ça comme ça. Et donc, ils ont créé tout un système pour aider et l'agriculteur et celui qui achète pour qu'il puisse développer ses projets d'agriculture. Et donc, Et enfin, ça s'appelle Sikiwa, je vous invite à y aller. Ils vont lancer d'ailleurs un crowdfunding bientôt. Et on a beaucoup travaillé avec eux, justement, sur leurs valeurs et leurs visions, parce qu'ils avaient perdu beaucoup de gens dans leur équipe. Ils sont vraiment agrandis et ils se sont rendus compte que, les personnes n'avaient pas les mêmes valeurs.
D'accord.
Qui sont notamment une entreprise très familiale, donc ça veut dire rester avec le temps, et aussi qui aiment les nouvelles technologies, donc ils sont tout le temps à la pointe, par exemple. Donc ensuite, alors le deuxième point, quand on a fait ça, alors en général, on est tout content, on a fait le workshop, on sait où on va, c'est excitant et tout. Il y a d'ailleurs même des genuines qui, en faisant ce workshop, ont aussi pivoté leur business, ont super bien réussi, je suis trop fière. Et la deuxième partie, c'est de dire, maintenant, on doit mettre notre routine de communication. Donc ça se fait quand t'es plus qu'une. Toi, t'as ta routine, toi, avec ton truc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais comment est-ce que tu fais quand t'as plusieurs employés? Et c'est là que ça devient méga fun. Ça, j'adore. Parce que t'as aucune entreprise qui ressemble à une autre. Ce que tu prends en compte est l'unicité de chacun et aussi la culture de l'entreprise. Comment sont tes meetings? Donc, tu vois, il y a une start-up dans la crypto, ils sont tous des geeks. Donc, ils font du gaming pendant ce temps-là. Ils ont fait des trucs de fou pour que leur routine... Ouais. Mais il y en a d'autres, ça va être plutôt... Je sais pas, t'auras la zone... Enfin, j'ai une assurance, j'ai travaillé avec une assurance et ils appelaient ce stand-up meeting the fucked up corner, tu vois.
Okay.
Donc, ça va... Alors, l'assurance, il dit, mon Dieu, mais si, donc ils ont dit, c'est l'endroit où tu... déballe tout et puis tu t'exprimes.
Zéro contrainte,
voilà, exactement. Mais bon, normalement, cette routine, c'est juste 10 minutes par jour. On est tous là, chacun a clairement un rôle. Il n'y a pas de leader. C'est ça qui est hyper important. Il n'y a pas de leader, ou je dirais plutôt où chacun est son propre leader. Et en général, même pour coordonner le meeting, ça, tu changes de casse-tête.
C'est ce que j'allais te demander. Il n'y a personne qui
bon, lead au début, la séance. Au début, tu donnes quelqu'un lead, puis après, ça c'est tellement tout seul qu'il n'y a plus personne et ça avance. Et ça veut dire aussi que chacun comprend ce que fait l'autre. Et parce que des fois, ce qui est aussi très bien à faire, c'est que tu changes les responsabilités juste pour comprendre ce qu'il y a derrière les indicateurs et les activités de l'autre. Donc il y a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire on regarde les indicateurs, ton point, c'est vert, génial, c'est bon, on a atteint notre objectif, c'est rouge, action. Et là on dit qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là où on devient agile parce que c'est tout de suite dans la journée, on doit réagir à ce qui s'est passé. Et puis la dernière partie, c'est l'amélioration continue de tes processus. Moi, je l'ai vu dans les grandes boîtes, on voit aussi beaucoup de la digitalisation. Moi, à notre échelle, en tant qu'entrepreneuse, c'est quoi? C'est tout simplement, avant, je passais 2 à 3 heures sur LinkedIn tous les jours. Maintenant, j'ai mis des robots en place. Je passe plus autant de temps, je passe 10 minutes. Il y a aussi d'autres choses qui sont arrivées pour le management de projet. Justement, ce que tout à l'heure, on parlait avec ton équipe, comment est-ce que tu es sûr que les tâches sont faites, combien de temps ça va prendre, donc vraiment la système agile qu'on a vu avec SAB. Et là, par exemple, il y a des applications comme ClickUp qui peuvent vachement bien aider, tu vois. Bon, je dis ça, peut-être que dans un an, la personne qui va écouter ce podcast va dire « Mais Marie, t'es complètement has-been. »
Ça aura peut-être évolué d'ici là,
mais voilà, c'est ça l'évolution. Ouais. Okay. Donc, mais c'est toujours important dans la mise en place de l'agilité d'écouter les personnes, les rendre autonomes et de comprendre qu'est-ce qu'elles ont besoin pour les rendre autonomes. Et puis que ça soit fun, complètement.
Donc si tu avais un conseil général à donner en matière d'agilité, ce serait quoi? C'est la communication, c'est...
Clair, c'est de comprendre déjà qui tu es. Ça, je pense qu'on est tous dans cette évolution, de comprendre ses propres motivations et ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire au jour le jour. Et aussi, surtout, comprendre l'autre. Et puis, comme on dit en anglais, strive, j'aime bien ce mot-là, mais comment... Ouais, chaque jour peut être un bonheur complet. Enfin, je sais que c'est assez cliché, mais c'est vrai.
Mais c'est très vrai.
Ça amène à ça.
Merci. Et on arrive à la fin. Est-ce que tu as des projets que tu voudrais partager avec nous?
Alors, j'en ai pas mal. Et j'en ai un qui concerne un peu plus les Genuines, que je fais avec une autre Genuine qui s'appelle Florence, où on va lancer l'expérience Limitless. Mm-hmm. Mm-hmm, c'est un joli nom.
Mais...
Donc, on a mis nos forces ensemble. Donc, moi, le côté business et elle, le côté plutôt neurosciences, pour accélérer un projet sur 7 semaines. Donc, ça va être des groupes de femmes, de 10 personnes. Et on va se rencontrer toutes les semaines pendant 3 heures pour faire accélérer votre projet. Donc 20% de théorie, 80% de pratique. Et
génial.
Tout ce dont on a parlé aujourd'hui aussi, on va le faire pendant ce temps. Et pourquoi le côté neurosciences? C'est tout simplement parce que on veut comprendre son cerveau, comment on marche, et de faire tout ça sans se bruiser les ailes, tout simplement. Parce que ça peut être très overwhelming, comme on dit en anglais.
Si on veut se renseigner sur le projet, on vous retrouve où?
Sur notre plateforme, enfin la plateforme des Genuines, bien sûr, ou directement là, on va lancer toutes les campagnes, donc vous allez pouvoir nous trouver, que ça soit sur LinkedIn ou à travers moi, I Love Opex, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter.
Tip top. Bon, on se réjouit de suivre tout ça, là.
Ben oui, moi aussi.
Merci beaucoup, Marie-Philippe.
Merci Virginie, merci, chers auditeurs.
On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.